La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine au conflit de mémoire en ex-Yougoslavie où les ultranationalistes et les antifascistes se disputent les mêmes monuments construits en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. On les appelait les partisans en Yougoslavie.
Mi smo Savi Kovačeviću o bitci na Sutjesci, o proslavljenom komandantu.
Vous voyez, c'est la chanson du commandant des partisans Sava Kovače pendant la bataille de Sutjeska. Il a été tué durant cette bataille dans une division avec des partisans blessés. Et comme vous pouvez le voir dans mes yeux...
Vous avez l'air ému en écoutant cette musique.
Zašto? Zato što to me podsjeti na jedno lijepo vrijeme.
Parce que ça me rappelle le bon vieux temps, quand les gens pensaient à des choses positives, quand on était tous unis et qu'on était sûr que des jours meilleurs étaient devant nous. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On ne peut plus croire en rien, on ne peut pas se reposer sur quelque chose. Je ne pense pas qu'on puisse vivre sereinement. La vie est difficile ici.
Nama su ovdje adrese, ali mi ovdje ne živi.
La voix de Sead Djulić dans la Marche du Monde. Il est le président de SABNOR, le Conseil des antifascistes et combattants de la guerre de libération nationale. Citoyen de la Bosnie-Herzégovine, il exprime toute sa nostalgie de l'époque socialiste de la Yougoslavie et des valeurs de fraternité alors promues. Mais il s'exprime aussi sur son inquiétude face aux tensions politiques autour des spoméniques, les monuments construits en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ce patrimoine antifasciste, très abstrait, parfois spectaculaire, est signé par les plus grands artistes de l'époque du maréchal Tito. Mais depuis l'éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la guerre des années 90, une bataille idéologique se livre autour de ces milliers de mémoriaux disséminés dans les Balkans, abandonnés ou détruits dans les zones les plus nationalistes, les spoméniques en disent long sur le poids de l'histoire. Passionné par ces lieux de mémoire, le photographe Alberto Campi nous emmène à la chasse aux spoméniques sur les routes de Serbie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Ces trois pays ont gardé le même indicatif téléphonique, le 38, qui est aussi le nom de ce projet photographique. Spomenik, les monuments de la discorde, c'est un reportage long format signé Daphné Gastaldi pour RFI.
Je m'appelle Alberto Campi, je suis photojournaliste. J'ai commencé ce projet que j'ai appelé Plus 38. C'est un projet lié aux monuments antifascistes dans le territoire qui correspondent à l'ex-Yougoslavie. En serbo-croate, on appelle ces monuments spomenik. La traduction correcte, c'est mémoriaux. Partout dans le territoire de l'ex-Yougoslavie. On peut considérer que la grande création des spoméniques s'est arrêtée avec la mort de Tito.
Commençons par la nouvelle qui a endeuillé la Yougoslavie, la mort du maréchal Tito.
Nous sommes le 4 mai 1980.
Le maréchal Tito, âgé de 88 ans, menait là son dernier combat à la suite d'une vie extraordinaire faite d'exploits militaires et politiques. André Guinet la retrace.
La Croatie. C'est encore une province autrichienne lorsque le 25 mai 1872, dans le petit village de Kumrovec, naît Josip Broz. Il est le troisième enfant d'une famille paysanne qui en comptera huit. Josip Broz ne s'appelle pas encore Tito quand commence sa vie d'homme. Il est d'abord apprenti serrurier, puis ouvrier métallurgiste. 1941. L'Allemagne nazie attaque la Yougoslavie avec toute sa brutale puissance. Serbes et Croates divisés ne tiennent que 11 jours devant les panzers. La guerre est-elle finie? Non, elle ne fait que commencer et le monde va apprendre à connaître Tito. Tito est le maître. La Yougoslavie sera républicaine, socialiste et fédérative. Le chef royaliste Mihailovic est condamné à mort pour haute trahison. L'Occident dénonce à la fois la politique et le procès. Alors Tito signe avec Staline un traité d'alliance. Mais il n'est pas un allié facile et finit par dire non au dictateur en 1948. Le voici le jour de son 87e anniversaire, le 25 mai 1979. Convaincu depuis longtemps qu'il pouvait mourir n'importe quand et que rien ne serait changé. La jeunesse était toujours conviée à ses anniversaires. Une jeunesse qui lui devait beaucoup et sur laquelle d'ailleurs il comptait. « Il faudra continuer après moi », lui disait-il dans l'un de ses derniers messages. « Après moi, c'est tout le pari. Car que va devenir la Yougoslavie après le petit homme trapu et têtu qui avait su dire non ?»
En regardant la répartition des monuments sur le territoire, on peut imaginer les lieux des batailles et les mouvements des différentes armées, de l'armée nazie et de la guerre de libération des partisans. Les civils qui ont pris les armes, c'était des partisans. La majorité des monuments, ils sont là où la bataille il a eu lieu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ici, par exemple, on peut repérer très facilement un monument très important, qui c'est le fleur de Jasenovac, en Croatie, où on va aller bientôt.
Si le monument de Jasenovac en Croatie est l'un des buts de son road movie à travers l'ex-Yougoslavie, c'est dans la campagne serbe qu'Alberto Campi commence son voyage après avoir atterri à l'aéroport de Belgrade.
On est au milieu de la Serbie, en pleine campagne, au sommet d'une colline. Je vous amène découvrir des monuments d'un des artistes les plus connus de l'époque, Miodrag Živković, et j'espère qu'avant la fin du voyage, on va le rencontrer.
On arrête la voiture pour prendre en photo un monument très étonnant. On l'a vu de loin, il brille, il est tout en aluminium. Sa forme est très abstraite, avec des visages carrés représentés. Alors, où sommes-nous et en quoi ce monument est particulier en Serbie?
Alors, on est à Ostra. Il n'y a pas beaucoup de maisons, c'est vraiment des petites maisons isolées. Et c'est un des monuments les plus forts. L'artiste qui l'a réalisé, c'est Miodrag Živković. C'est un monument qui montre très clairement les enjeux contemporains liés à ces lieux. Parce que juste à côté de ce monument antifasciste, on a une église orthodoxe qui vient d'être terminée. On voit comme il y a une volonté d'effacer et de minimiser la mémoire antifasciste laïque du passé yougoslave et de la confronter avec l'église orthodoxe et le pouvoir de l'église aujourd'hui en Serbie. Alors ce mémorial, il était terminé en 1969. C'est à l'honneur des partisans et des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, des partisans qui sont morts ici à Čačak.
Alors dans cette chasse aux mémoriaux, en ex-Yougoslavie, on s'intéresse aux mémoriaux qui sont au cœur de tensions idéologiques. En quoi celui-ci est significatif?
Ce mémorial est très significatif parce que d'un point de vue spatial, on voit un symbole socialiste de l'époque des Tito et juste à côté, un symbole religieux, orthodoxe, contemporain. Ce monument, comme tous les monuments de l'époque socialiste, sont des mémoriaux laïcs sans aucun symbole religieux. Et ici, on voit que l'église orthodoxe, elle était bâtie juste à côté pour couvrir, un peu pour cacher le monument antifasciste, pour essayer de minimiser le passé socialiste de cette région. Alors cette région, il faut dire que c'est une région très orthodoxe et pas loin d'ici, c'est là où ils ont fondé le mouvement des Tchétniks. Les Tchétniks, c'était une armée fondée pendant la Deuxième Guerre mondiale par des monarchistes orthodoxes. C'était des ennemis des partisans, des collaborateurs des nazis pendant certaines périodes.
C'est un mémorial de la Seconde Guerre mondiale que vous avez souvent pris en photo. En quoi il est particulier?
Alors, c'est une structure de plus ou moins 17 mètres de longueur et 10 mètres d'auteur. C'est entièrement en aluminium. C'est vraiment une œuvre, d'un point de vue artistique et aussi artisanal, magnifique. On voit des visages abstraits qui sortent de la matière et qui montrent la souffrance humaine, ce qui rappelle la tragédie de la Seconde Guerre mondiale.
On est à une heure de Belgrade sur un site commémoratif très important dans la ville de Kragujevac. Cette fois-ci, le spomenik, le monument, est au cœur d'un parc. Il y a un musée, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est là où on vient faire la balade du dimanche.
On est au parc mémoriel du 21 octobre 1941. Cette date, c'est la date de l'exécution des milliers de civils de la ville de Kragujevac. Surtout des élèves avec leurs enseignants. C'est un lieu qui est très vivant, il est aimé par les gens de la ville, on voit autour beaucoup de personnes. Le monument était inauguré en 1959. C'est un monument en béton blanc, c'est un monument à forme de V. Dans mes photos, j'ai zoomé pour essayer de montrer les détails de cette œuvre qui représente les personnes et la violence de cette exécution. Le titre de l'œuvre d'art s'appelle « Aile brisée ». Quand on parle de ce monument, les personnes d'ici ont encore les larmes aux yeux. On est en train d'aller rencontrer une historienne de l'art. Le rendez-vous, c'est à la faculté de philosophie de l'Université de Belgrade.
On dirait que c'est ici. Hello.
Hi.
Fine. Roberto Campi, nice to meet you.
Nice to meet you too.
Okay, well, my name is Vladana Putnik-Pritsa.
Je suis Vladana Putnik-Pritsa. Je suis chercheuse assistante à la faculté de philosophie au département d'histoire de l'art.
Alors, Alberto Campi, qu'on suit dans son voyage à la recherche des spoméniques pour RFI, a apporté quelques photos. Peut-être qu'on peut les regarder ensemble pour découvrir les artistes qui se cachent derrière ces statues.
On va les déplier. C'est une partie de mon archive d'images, des images que j'ai produites sur le terrain.
Well, this is a monument to the fallen pupils and professors in Kragujevac.
Ah, ça, c'est le monument de Kragujevac, un hommage à des élèves et des professeurs tués par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier monument le plus connu de Miodrag Dzikovic. Avant cela, il n'était pas si célèbre. Il m'a expliqué que son idée avait été de faire une composition qui représentait la vie interrompue trop tôt, la vie fauchée de ces jeunes gens grâce à une forme explosée en deux. C'était son idée. C'était un monument très compliqué à construire. Il l'a fait sur le site même. Le béton était alors considéré comme le matériau du futur.
The concrete was at that point considered to be like the material of the future.
Je pense aussi que c'est probablement un des spoméniques les plus connus en Yougoslavie. Et il était aussi sur les pièces, sur la monnaie locale.
On a l'impression qu'il y a peu d'informations encore sur ces mémoriaux. Est-ce que c'est un sujet nouveau pour vous en histoire de l'art?
Actually, I started doing research on spomeniks in 2011.
J'ai commencé à faire des recherches sur les spomeniks en 2011. À ce moment-là, peu de personnes avaient fait des recherches sur les spomeniks, donc j'avais peu de références. Quelques années plus tard, nous avons décidé de rejoindre un projet intitulé Les monuments inappropriés pour vraiment comprendre pourquoi ces monuments sont considérés comme inappropriés dans notre société actuelle. Et comment allons-nous réagir et changer cette situation? Nous avons peut-être une attitude plus neutre par rapport à la Yougoslavie. Nous ne sommes pas yougo-nostalgiques et nous ne pensons pas de façon subjective. Nous sommes plus objectifs que la génération précédente qui a grandi en Yougoslavie et qui a une opinion différente par rapport à l'art yougoslave ou à l'histoire yougoslave. Encore une fois, je pense que c'est un aspect important du changement en cours.
I think that is one important aspect of the changing tides in our recent history and art.
Et combien de mémoriaux vous avez recensés à ce stade dans vos recherches?
I think more than 1,000, but you know, it's not only the
plus d'un millier, mais ce ne sont pas que des complexes mémoriaux. Il y a aussi des petits mémoriaux ou même des plaques commémoratives. On documente tout. La recherche n'est pas finie, car il y a encore des endroits du pays où nous ne sommes pas encore allés. Mais on continue. Certains monuments ont été endommagés pour différentes raisons. D'un côté, pour des raisons économiques. Des personnes dans le besoin gagnent de l'argent en volant des matériaux qui peuvent être recyclés. Pas qu'en Serbie, mais dans toute la région. Certains monuments sont faits en béton. Ils sont donc en sécurité, mais d'autres sont en cuivre ou en matériaux recyclables. Et ils sont en danger constamment. Et pas que ceux de l'époque socialiste, mais aussi ceux qui ont été construits avant. Et puis d'un autre côté, il y a une négligence globale de notre société envers ces monuments, car il y a une tendance révisionniste de l'histoire qui remet en question les partisans et les communistes, qui considèrent que l'époque communiste était mauvaise pour notre société.
Vladana Putnik, on quitte votre bureau à présent et on se rend chez un des derniers artistes encore vivants qui a créé des mémoriaux à l'époque yougoslave. Souvenez-vous, on a vu une de ses œuvres à Ostra, en Serbie, au tout début du voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet artiste ?
Well, now we are going to meet Miodrag Živković. He's an artist, a sculptor.
On va rencontrer Miodrag Živković. C'est un artiste, un sculpteur. Il a conçu beaucoup de monuments dans les années 60-70. Plus tard également, mais je pense que nous allons nous concentrer sur ces deux décennies. Il a 90 ans et il travaille toujours. Je pense que ça sera une expérience vraiment intéressante.
Juste devant la porte de l'atelier, il y a un bout du monument d'Ostra qu'on a vu sur le terrain avec le photographe Alberto Campi, avec ses visages en aluminium dans des formes assez cubistes, assez abstraites.
Portraita, spomenik Ostri, od dural aluminium.
Ça, c'est un des visages que l'on retrouve sur mon monument à Ostra. C'est un alliage d'aluminium.
Dans la première partie d'atelier, on voit une maquette d'un des premiers spomeniks que vous avez fait et des personnes ont essayé de le détruire. Qui a essayé de le détruire ?
Pa zate ovaj oni su spomenik su probali da sruše oni koji su.
Ils ont essayé de détruire un de mes monuments au Kosovo. Ce sont les mêmes personnes qui ont détruit des monastères serbes, ceux qui ont fait déplacer les Serbes.
Et c'est assez émouvant de voir toutes ces maquettes, ces pièces des mémoriaux. Alors, on se met devant votre ordinateur. Est-ce que vous pouvez nous montrer sur votre ordinateur les photos de l'époque ?
Là, c'est une photo quand j'ai rencontré Tito, pour la première fois. Je portais une cravate spécialement pour ce jour-là. Et quand je regarde ces photos, je me sens très bien parce que je revois ma vie, tout ce que j'ai réalisé, et je suis toujours vivant.
Sur cette vieille photo, on vous voit devant une de vos œuvres à l'inauguration, en compagnie du maréchal Tito en uniforme. Il y a sa femme à ses côtés. Vous aviez 43 ans à l'époque. Aujourd'hui, vous en avez 90. Comment était le maréchal Tito, vous qui l'avez connu, Miodrag ?
Il était très charismatique et il aimait faire des blagues. Il avait une personnalité très agréable.
Est-ce que l'époque de la Yougoslavie vous manque ?
Bien sûr que cela me manque. Ça, c'est une musique populaire de partisans. Écoutez-moi ça.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes en ex-Yougoslavie à la chasse aux spomeniks, ces lieux de mémoire monumentaux dont les traces sont révélées par le travail photographique d'Alberto Campi. Des photos spectaculaires que vous pouvez découvrir sur les pages internet et Facebook de La Marche du Monde tout en écoutant le reportage de Daphné Gastaldi. Partis de Belgrade, Alberto et Daphné poursuivent leur road movie et traversent la frontière en direction de Zagreb. Ils quittent la Serbie pour entrer chez leurs voisins croates, où la coalition nationaliste a eu tendance à relativiser les crimes commis par le régime oustachi et pro-nazi durant la Seconde Guerre mondiale.
Alberto Campi, aujourd'hui c'est le départ. On vient de quitter Belgrade tôt dans la matinée et on passe la douane vers la Croatie. Il y a une commémoration importante à 200 km d'ici environ.
On arrive à Jasenovac bientôt. Jasenovac, c'est un lieu très important parce que c'était un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les enjeux mémoriels autour de ce monument, ce lieu de mémoire, ils sont très très tendus. Il y a des divisions entre la communauté juive de Croatie, la minorité serbe de Croatie, l'État croate, l'État serbe, le mouvement antifasciste.
Les juifs, les serbes et les antifascistes boycottent les cérémonies officielles. Et ces cérémonies ont lieu autour d'un immense spoménik.
C'est la représentation d'une fleur en béton. Et voilà le mémorial.
On arrive devant l'entrée du site mémoriel. Il y a une foule assez grande qui attend le début des commémorations. Sur la gauche, on peut voir un musée dédié à l'histoire de ce camp de concentration. Et au loin, on voit les wagons qui ont servi à la déportation. Et enfin, cette immense statue qui fait plusieurs mètres de haut et qui représente une fleur en béton. Sur le chemin, il y a des photos de l'artiste Bogdan Bogdanovic qui a fait ce spoménik et qui est un des plus célèbres auteurs de spoménik, de ces monuments en ex-Yougoslavie. Ça y est, les commémorations vont bientôt débuter. On voit la foule se mettre en marche. Petit à petit, elle avance comme une procession vers le mémorial, vers la fleur en béton qui est au milieu de cet ancien camp de concentration croate. Presque tous sont des œillets rouges à la main, des fleurs, et l'ambiance est plutôt paisible. Alors sur ce chemin de procession vers les commémorations, on aperçoit sur la gauche des buttes de terre et elles marquent l'emplacement des anciennes structures du camp de concentration, mais aussi des anciens charniers.
Ce monument, comme beaucoup d'autres spoméniques d'une taille importante, on ne peut pas seulement le voir, mais on peut arriver à le toucher et aussi de rentrer dans une certaine manière dans son ventre. Parce que la fleur, on peut rentrer vraiment dans le spoménik.
Il y a les listes des victimes connues à ce jour. La cérémonie commence et on voit la foule qui s'est groupée tout autour du monument, mais aussi sur les côtés, sur les flancs du monument. Il y a comme un passage, tout le monde est accoudé, se penche pour voir ce qui se passe en contrebas, pour voir la scène avec les hommes politiques qui se succèdent au micro pour faire leur discours. Milorad Pupovac vient de finir son discours, il est à la tête du parti indépendant démocratique serbe. On s'avance vers lui pour en savoir plus sur son message aujourd'hui.
So our main message today is that we have to speak in spite of having time.
Notre message principal aujourd'hui est que nous devons élever nos voix en dépit du silence à cause de ceux qui nient, qui relativisent l'histoire du camp de concentration de Jasenovac et des autres lieux où le gouvernement oustachi a perpétré des massacres entre 1941 et 1945.
We have to speak and we have to raise.
Nous devons prendre la parole et nous devons faire entendre notre voix, car dans notre société, il y a une politique intentionnelle consistant à oublier les endroits comme Jasenovac et le crime de génocide et d'holocauste commis par le régime des oustachis pendant la Seconde Guerre mondiale, contre les Serbes, contre les Juifs et les Roms. L'antifascisme doit être une de nos valeurs fondamentales en tant qu'Européens, surtout de nos jours, où l'on voit des populistes et des groupes politiques conservateurs qui essayent de renouer avec ce passé obscur de l'Europe et de notre pays.
The policies of the bad past of the Europe and bad past of our country.
Et justement, pour combattre ce révisionnisme, pourquoi n'allez-vous pas aux commémorations officielles demain, organisées par le gouvernement de droite nationaliste ?
We are not going to the official commemoration. This is the third year because of the simple reason that there is no public campaign.
Nous n'allons pas à la commémoration officielle pour la simple raison qu'il n'y a pas de campagne publique, pas de prise de position des principales figures de l'État contre le processus de révisionnisme, contre la tendance du négationnisme et le déni autour de Yasenovats et contre la politique d'oubli délibéré de ces lieux horribles, de ces horribles temps, de ces crimes horribles.
Du monument, c'est un espace qui reste ouvert sur l'extérieur. Et sur place, il y a aussi des anciens militaires de l'époque de Tito. Des œillets rouges ont été déposés sur les plaques commémoratives. On peut y lire les noms des victimes du camp de concentration. Les descendants des victimes déposent des fleurs devant les plaques commémoratives. Parmi eux, il y a Daria. On la voit en train de se photographier devant le monument. Et elle accepte de nous raconter l'histoire de sa famille.
Je suis Daria Nardelli, je suis la fille d'un homme qui a été tué ici, à Jasenovac. Et je viens ici tous les ans et je serai là les années prochaines. Malheureusement, le gouvernement actuel ne mérite pas que les victimes les accompagnent dans cette commémoration. Je crains qu'un jour ils passent de l'autre côté, du côté fasciste. Tant que les choses restent en l'état, nous ne pouvons pas être à leur côté. Mon père était vraiment antifasciste et tous ses amis sont morts ici. Ils étaient ensemble du côté antifasciste. Ce n'était pas important que vous soyez croate, orthodoxe, musulman, serbe, bosniaque ou rome. Peu importe qui vous étiez, vos idées étaient importantes. Et à cause de ces idées, ils sont morts ici. Il faut parler de ça à tous les pays du monde et aux pays qui ne célèbrent pas la journée européenne et la journée de l'antifascisme. Il faut leur montrer qu'il y a toujours des antifascistes en Croatie, qu'on est toujours vivant.
Daphné Gastaldi et le photographe Alberto Campi reviennent le lendemain au Spomenik de Jasenovac pour assister à la seconde cérémonie. Si la commémoration officieuse de la veille rassemblait une foule mobilisée pour le respect de la mémoire des victimes du nazisme, la cérémonie officielle est fort différente.
On vient d'arriver sur le site de Jasenovac. C'est aujourd'hui la commémoration officielle, le jour de la libération du camp de concentration, le 22 avril 1945.
L'atmosphère, elle n'est pas du tout populaire.
Des motards arrivent sur le parking et devancent les voitures officielles du gouvernement. Et là, on voit l'armée qui arrive, se positionne. Et il y a un petit groupe à l'écart de l'entrée du musée qui représente la communauté rome. Aujourd'hui, il n'y aura aucun discours lors de la cérémonie. À l'écart, on aperçoit un ministre qui accepte de répondre brièvement à la presse. On va se rapprocher. Il s'agit de Lovro Kuščević, ministre de l'administration publique. Il est interrogé sur l'attitude du gouvernement, absent des commémorations avec les victimes hier, et accusé de ne pas condamner clairement le mouvement HOS, un mouvement qui a donc installé une plaque pro-nazi au slogan « fasciste, prêt pour la patrie ». On s'approche pour écouter sa réponse faite aux journalistes locaux.
Vlada Republike Hrvatske se jasno distancirala od svih totalitarnih režima, od fascizma, od komunizma i svih sličnih totalitarnih.
Le gouvernement de la République de Croatie a clairement déclaré être éloigné de tout totalitarisme, du fascisme, du communisme et d'autres régimes similaires. Bien sûr, ce slogan « Prêt pour la patrie » n'est pas bienvenu. Cependant, on ne peut pas faire de lien avec le contexte des HOS, les anciens paramilitaires des forces de défense croates, de la guerre de notre pays et le mouvement Oustachi que nous condamnons tous aujourd'hui. Il n'y a donc aucune politique délibérée d'oubli, mais plutôt une politique proactive de protection de toutes les minorités et des intérêts de ce pays.
D'accord, il y a eu 3 défilés différents dernièrement et la présidente de Croatie n'est même pas là aujourd'hui.
Autant que je sache, la présidente est venue il y a quelques jours. Je ne sais pas qui vient ni quand. La chose importante, c'est que nous soyons là pour commémorer ce jour avec dignité.
Ça y est, le Premier ministre croate vient d'arriver. Les commémorations commencent. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la présidente croate n'est pas présente aujourd'hui. Elle est venue en secret, sans les médias, il y a 2 jours. Donc on voit l'éclatement des commémorations. Donc on voit bien là qu'il y a beaucoup de désaccords politiques. Et au lieu d'avoir une seule et même date, on a 4 dates différentes de commémoration autour de cette fleur de béton, autour du spomenik de Jasenovac.
Svevas. Srdečno pozdravljam u ime javne ustanove spomen područja Jasenovac i pokrovitelja komemoracije Hrvatskog sabora na početku današnje komemorativne svečanosti kojom obilježavamo 75.
Aujourd'hui, pour les commémorations officielles, la cérémonie a commencé par le chant national, puis par une minute de silence. Alors qu'hier, avec les associations de victimes, c'était plutôt un chant religieux orthodoxe qui a lancé les commémorations. Il y a tout un cordon de sécurité, on ne peut pas s'approcher comme hier. Survivant du camp de concentration de Jasenovac est présent aujourd'hui. Il est en train de déposer des fleurs avec sa famille à ses côtés. Il a environ 80 ans. On va essayer de le rencontrer pour en savoir plus.
Je m'appelle Mile Vukmirović. Je suis l'un des prisonniers qui a survécu au camp de concentration du camp de Jasenovac.
Dans votre sacoche, vous avez apporté une photo d'archive. Est-ce que vous pouvez nous la montrer?
Oui, c'est une photo de moi, enfant, après être sorti du camp. J'ai gardé cette image depuis tout ce temps.
C'est une photo de votre enfance. On vous voit porter un uniforme. On l'a vu, le pays est divisé sur ces commémorations. Il n'y en a pas une, mais plusieurs. Vous, que pensez-vous de ces divisions ?
J'en ai parlé au Premier ministre de Croatie. Il est venu me voir et je le respecte. Je lui ai dit, s'il vous plaît, faites quelque chose. Nous sommes tous les mêmes. Il faut calmer le jeu. Je pense que nous n'avons pas besoin de ces séparations.
Les batailles mémorielles autour des spoméniques de l'ex-Yougoslavie traversent tous les nouveaux États issus de l'éclatement de la Fédération socialiste. Certains mémoriaux dédiés aux résistants de la Seconde Guerre mondiale sont abandonnés. D'autres font l'objet d'une récupération politique ou bien sont la cible d'attaques à l'explosif, comme le découvre notre reporter Daphné Gastaldi. Après avoir traversé la Serbie et la Croatie, elle arrive en Bosnie-Herzégovine, où elle suit le photographe chasseur de Spomenik, Alberto Campi.
Ça fait maintenant 7 jours qu'on est sur la route pour retrouver des Spomenik. En partant de Belgrade, on est passé par Zagreb, en Croatie, et là on est sur la route de Sarajevo.
On va en direction de la Bosnie.
Et la prochaine étape, ce sera à Prozor, où un monument a été entièrement détruit. On va essayer de comprendre s'il est toujours présent dans la mémoire collective. On s'écarte complètement de la route principale à présent et on arrive en haut d'une colline. On a une vue incroyable sur toutes les chaînes montagneuses enneigées autour, mais surtout, il y a un spoménique, un monument complètement détruit. On voit des blocs de béton partout et surtout on voit des symboles fascistes, des symboles oustachi qui ont été inscrits sur ces ruines.
Il était détruit avec de la dynamite il y a 18 ans.
Qui a fait exploser ce monument et pourquoi à cette date ?
On ne sait toujours pas qui a détruit ce monument la nuit entre le 22 et le 23 novembre 2000. Mais ce qu'on sait, c'est que la date n'était pas choisie au hasard. Parce que c'est la date anniversaire de l'inauguration. L'inauguration a eu lieu en 1978. La taille, elle était vraiment impressionnante, 14 mètres de hauteur et 12 mètres de largeur. Pour les gens, ça représentait la bataille de la Neretva. C'était une bataille très importante de l'histoire de libération de la Yougoslavie et c'était le maréchal Tito qui l'avait inauguré en personne.
La structure en béton armé est restée telle quelle, on a l'impression que c'est une grande croix. Et tout autour par terre, il y a des monticules de béton.
Oui, il y a beaucoup de graffitis dessus. On voit des symboles oustachi. Et on voit que les gens du coin, ils s'approprient ce symbole avec une sorte de bataille de graffitis. On voit des symboles oustachi un peu partout, des symboles fascistes croates. On voit un grand symbole de la paix. Et on voit toute une série d'autres messages laissés sur les ruines de cette immense structure. Ce qui reste de ce monument, ça représente très bien les enjeux des mémoriaux dans cette région. C'est très violent. On voit très bien le fait qu'un message qui vient du passé, il est réinterprété et il est toujours au centre de l'attention des personnes qui habitent dans la région.
Sarajevo, nous sommes au cœur de la capitale de la Bosnie-Herzégovine, marquée à la fois par la Seconde Guerre mondiale et la guerre des années 90. Nous traversons le pont latin pour rejoindre l'historien Nicolas Moll jusqu'au mémorial méconnu des partisans à Vraka, un Spomen Park, une forteresse prise d'assaut par la végétation et le vandalisme. Mais bien qu'il ne soit pas entretenu, ce mémorial est investi par la population comme un jardin public.
On arrive sur les lieux, alors c'est comme un demi-cercle.
Le mémorial est construit sur la colline. Et en fait, on va voir un peu plus loin donc, une ancienne forteresse de l'Empire austro-hongrois qui a été intégrée en fait, dans le mémorial. Et on va monter les escaliers et en fait, autour de ces escaliers, il y a les noms inscrits des partisans qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale donc, autour de Sarajevo. Donc il y a environ 2000 noms qui sont inscrits à gauche et à droite là, en montant les escaliers. Il est abandonné en fait, donc il est plus vraiment en service, même s'il y a des efforts de rénovation qui sont en cours. Donc la nature a repris ses droits également. C'est un endroit que je trouve très beau au niveau architectural. Cela représente plusieurs couches d'histoire des 130 dernières années de la ville de Sarajevo qui se synthétise un peu dans ce lieu.
Là, près des gerbes qui ont séché, on voit une inscription, Tito.
Il y a des phrases de Tito qui marquent un peu le territoire. Donc bien sûr, Tito comme le maître penseur de l'antifascisme yougoslave. Et donc c'est une phrase effectivement qui exprime l'honneur et la gloire de la lutte antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale.
De la forteresse, c'est vrai que c'est un peu la jungle au niveau de la végétation. Et puis il y a des vitres cassées, c'est assez endommagé effectivement au niveau du bâtiment.
Et là nous arrivons donc à une extrémité de ce parc où se trouve en fait une stèle, à nouveau avec une inscription de Tito, qui se termine par la fameuse phrase « Smrt fascismu, sloboda narodu », donc « Mort au fascisme, liberté au peuple ». Et on voit ici donc aussi le relief du maréchal Tito sur cette stèle. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que en fait, cette stèle n'est pas au centre de ce mémorial, elle est tout au bout. Et en fait aussi, Tito n'est pas surdimensionné donc, par rapport à d'autres endroits. Ce n'est pas nécessaire de le placer au milieu parce que de toute façon, il est partout.
Quelle est l'attitude du gouvernement Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la conservation de ces monuments qu'on appelle localement des spoméniques ?
Après le changement de système politique, l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et après dans la Bosnie-Herzégovine créée aussi par les accords de Dayton après la fin de la guerre en 1995, une des questions c'était bien sûr aussi que fait-on de l'héritage antifasciste ? Et il y avait différentes positions, il y avait ceux qui ne s'y intéressaient pas du tout, qui voulaient l'abandonner. Il y avait ceux qui étaient radicalement contre, qui ont détruit certains monuments. Et il y a ceux qui s'inscrivaient aussi dans une certaine continuité de l'héritage antifasciste. Par exemple, le Parti social-démocrate aujourd'hui est en fait le parti successeur du Parti communiste de l'époque yougoslave. Donc lui, dans ses statuts, met en valeur l'héritage antifasciste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un combat nationaliste autour de l'héritage antifasciste. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives aussi de groupes nationalistes de récupérer l'héritage antifasciste pour soi-même en le détournant. Les antifascistes, les partisans, c'était des Serbes, et les Serbes, c'était des antifascistes, donc c'est normal qu'on rend hommage à eux. Mais bien sûr, on voit que c'est une récupération en fait de l'antifascisme à des fins nationalistes, puisque l'idée même des partisans et aussi l'idée antifasciste dans l'État yougoslave, c'est que c'était l'aspect multinational. C'est les Serbes, les Croates et les musulmans ensemble qui faisaient en fait la définition des partisans. Et si bien sûr aujourd'hui des partis nationalistes détournent l'antifascisme pour des fins nationalistes, ceci va à l'opposé bien sûr de l'idée d'origine. Donc il y a une bataille aussi autour de l'antifascisme qui a lieu en Bosnie-Herzégovine. Et c'est vrai que la question « qu'est-ce que signifie l'antifascisme aujourd'hui ?» est une question qui n'est pas tranchée.
Après Sarajevo, nous suivons Alberto Campi jusqu'au cimetière des partisans à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Une autre œuvre de l'architecte Bogdan Bogdanovic, laissée à l'abandon pendant des années. Ce qui frappe dès l'arrivée, ce sont les croix gammées, symboles fascistes. Le site a été petit à petit vandalisé par des groupes néofascistes de la région.
Il faut remarquer qu'il n'y a aucun symbole religieux, ni musulman, ni orthodoxe, ni catholique. C'est un lieu athée, lié à la résistance, lié aux valeurs antifascistes. Il était inauguré en 1965 Et ça a pris 5 ans pour le construire.
On voit qu'il est très dégradé, il y a des symboles nazis ou stachis à l'entrée. La nouveauté, c'est qu'il y a un gardien, quelques ouvriers qui nettoient les pierres.
C'est la première fois que je vois des traces de respect pour ce lieu. Ils sont en train de nettoyer la partie supérieure. On voit qu'il y a 5 différentes terrasses, plus la dernière, la plus importante, qui est, c'est là où il y a le symbole de l'univers. On voit vraiment sortir la couleur originale de la pierre. C'est vraiment magnifique de le voir dans sa couleur originale.
Alors, il y a un ouvrier qui accepte de nous parler.
En ce moment, on est en train de nettoyer les graffitis et les symboles fascistes sur la roche et sur les pierres tombales du monument.
Que pensez-vous de cette opération de nettoyage du site ?
Je pense que c'est très important d'enlever ces signes fascistes. Je suis né en 85, vous savez, j'étais qu'un enfant à l'époque de la Yougoslavie. Et tout ce que je sais de cette période, c'est grâce au monument. On a besoin de valoriser et de protéger ce genre de monument dans toute la Yougoslavie et à Mostar aussi.
On vient de visiter donc ce parc mémoriel qui est au cœur de beaucoup d'enjeux idéologiques.
Pour en savoir plus, on va rencontrer Sead Djulic, président de l'association antifasciste locale de Mostar.
Sead Djulic.
Je suis président de SAMNOR, le Conseil des antifascistes et combattants de la guerre de la libération nationale.
Vous étiez militaire et vous avez connu l'époque de Tito. Vous avez fait partie de l'armée yougoslave aussi. De quoi vous souvenez-vous ?
Je me souviens très bien de cette époque et j'en ai gardé de bons souvenirs. Dans cette armée, il y avait des Bosniaques, des Croates, des Serbes, des Macédoniens, des Slovènes. Qu'importe, nous étions tous unis. J'ai beaucoup appris, pas sur la guerre et les batailles, mais sur la vie, sur ce qu'on peut accomplir lorsqu'on avance ensemble.
Les monuments de la discorde. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde proposé par Daphné Gasteldi et réalisé par Sophie Janin. Plus d'infos et surtout les photos d'Alberto Campi sont à découvrir sur les pages internet de La Marche du Monde et Facebook. N'oubliez pas de nous écrire, réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.